Chapitre 11e, Timor. Chasse aux crocodiles, malais, chinois. Nous levâmes l'ancre et fîmes voile vers Timor, une des plus grandes îles jetées sur les océans. La première nuit de notre départ fut une nuit d'émotion et de travail, car après avoir plusieurs fois talonné dans la baie, nous nous vîmes arrêter tout à coup et forcés d'aller mouiller des ancres pour nous remettre à flot. Au point du jour, nous reprîmes notre route, et tant que la côte fut en vue, elle se dessina avec ses étroites zones tranchées de craie blanche et de cinabre, pelées, mornes, silencieuses, menaçantes. Monsieur Duperret, un des officiers les plus instruits de notre marine, avait déjà puisé, dans une course périlleuse le long de la terre et à travers mille difficultés, des documents précieux, et tracé une excellente carte des criques et des anses où les navires peuvent s'assurer un mouillage à côté de ce sol inhospitalier. Nous longeâmes de nouveau la terre d'Edel, que nous avions saluée à notre arrivée, et dont le morne aspect glace le cœur. Nous côtoyâmes l'île d'Irkatigs jusqu'au cap de l'Ovilin, et nous laissâmes à notre droite les îles de Dore et de Bernier, où se trouvent en famille assez nombreuses les kangourous à bandes longitudinales, si jolies, si coquets, si lestes. Jamais navigation plus paisible n'a été faite même sous les zones tropicales. Nous étions doucement poussés, grand largue, par une brise fraîche et soutenue, et pendant 17 jours que dura notre traversée jusqu'à Timor, les matelots, délassés et joyeux, n'eurent pas une seule voile à orienter. Cependant, à l'horizon toujours pur, s'éleva une terre. C'était l'île Roti, au mamelon régulier, couronnée d'une belle végétation. Puis se déroula aux yeux la riante Simao, véritable jardin, où la nature a semé ses plus riches trésors, où de larges allées naturelles ont tant de régularité qu'on les dirait tracées par la main des hommes. Puis encore Kera, lieu de délices, séjour de prédilection des riches habitants de Timor, qui viennent aux sèches saisons de l'année y chercher dans de gracieux et bizarres kiosques le repos et la brise de la mer. Enfin Timor se leva, Timor la sauvage, la torréfiée, avec ses imposantes montagnes de 2000 mètres de hauteur, Timor, où deux pavillons européens sont hissés sur deux villes rivales, peuplées d'êtres farouches, obéissants parce qu'ils ne veulent pas commander, mais toujours prêts à la révolte afin qu'on les apaise par des caresses. Kupang se dessina bientôt avec son temple chinois, planant sur une hauteur à gauche de la ville et le fort Concordia à droite. Nous mouillâmes à une demi-lieue de Kupang, sur un excellent fond abrité d'un côté par Simao et de l'autre par les sommets de Timor ou au-dessus des nuages, la végétation n'a rien perdu de ses belles couleurs. La rade est sûre, large, les flots toujours tempérés. Mais là aussi un nombre immense de crocodiles ont établi leur empire et vont chaque matin sécher leurs dures écailles au soleil ardent de la plage, sur laquelle ils font le repas des imprudents qui oublient un voisinage si dangereux. Le fort Concordia, ai-je dit, est bâti sur une hauteur. Cette hauteur est un roc de difficile accès. M. Tillman, secrétaire du gouvernement, nous avait assuré que bien souvent, la nuit, les crocodiles assoupis s'y reposaient de leur course gloutonne et pouvaient être tués par des balles bien dirigées. Armé d'un excellent fusil et suivi de mon ami Bérard et d'un matelot, je m'y rendais souvent pour tâcher d'atteindre quelqu'un de ces amphibies. Mais deux fois seulement un crocodile poussa sa hideuse tête sur le roc et se retira comme s'il prévoyait le danger qui le menaçait. Lassé enfin de tant d'infructueuses courses, je demandai à M. Tillman s'il ne pouvait pas m'indiquer un lieu où il me fût aisé de voir de près ces tyrans redoutables. « Allez à Bonny, me dit-il, puisque vous êtes si curieux, et je vous réponds que vous serez satisfait. » La partie fut fixée au lendemain, le grand canot du bord fit voile pour Bonny. Nous étions 9 hommes bien armés, et nous avions pour guide un malais qui se fit fort de ne pas nous laisser revenir à bord sans nous avoir donné pleine satisfaction. Bonny est à 3 lieues de Kupang. C'est une plage sablonneuse, solitaire, de 400 pas de largeur et bordée par de belles plantations de cocotiers et de tamariniers. La brise nous poussa par petites bouffées, mais enfin nous arrivâmes sans que la présence importune d'un seul crocodile autour de l'embarcation nous contraignît à faire usage des haches dont nous étions prudemment armés. Nous n'avions plus qu'un trajet d'une 30aine de toises à parcourir quand le malais, attentif, se leva et nous montrant du doigt un corps noir étendu sur le sable. « Kayumera, Kayumera !» nous dit-il. Nous savions la signification de ce mot et nous rebroussâmes chemin, afin que le bruissement des avirons ne réveillât pas l'amphibie. Nous prîmes terre, et armés de bons fusils dans lesquels chacun de nous avait glissé 2 balles, nous marchâmes accroupis vers la bête monstrueuse cachée par un monticule de sable. Arrivés à 15 pas environ, nous fîmes halte. Bérard, le plus adroit tireur, devait viser à la tête, un autre au cou, un troisième un peu plus bas, et ainsi de suite, les 4 derniers au milieu du corps. Il nous paraissait impossible que le monstre nous échappât, et peu s'en fallut que nous ne chantassions notre triomphe avant l'attaque. Nos cœurs battaient de plaisir plus que de crainte. Chacun se disposait à dire comme dans Cendrillon, « C'est moi qui ai tué la bête », et nous délibérions en nous-mêmes sur le meilleur moyen d'emporter la lourde carcasse à bord. 15 à 18 balles sur un ennemi dans le sommeil, la victoire ne pouvait être douteuse. Nous nous levons en même temps. Bérard compte à voix basse, 1, 2, 3, tous les coups partent, la détonation est portée au loin par les échos. Le crocodile se réveille, tourne tranquillement la tête à droite et à gauche, sans doute pour voir l'important qui venait de troubler son repos, et s'en va doucement dans les flots, comme si l'on avait éternué à ses côtés. Je ne vous dirai pas la triste figure que nous faisions. À peine osions-nous nous regarder en face, et pourtant nous nous vantions sans pudeur d'avoir parfaitement visé. Celui dont le fusil avait raté fut le seul coupable, il aurait tué le monstre. La place marquée par le crocodile sur le sable occupait une longueur de 22 pieds. L'insolent ne voulut pas nous permettre de constater sa taille d'une façon plus précise. Cependant, nous tenions à réparer notre échec, et le malais nous indiquant du doigt une petite crique où nous devions trouver de nouveaux ennemis, nous poursuivîmes notre route. Comme la chaleur était accablante et que, pour arriver à l'endroit désigné, nous avions à faire un grand circuit, nous résolûmes, afin d'abréger le trajet, de nous hasarder dans un petit marais d'un demi-quart de lieue de largeur, en faisant la chaîne à l'aide de nos fusils, au bout desquels nous tenions notre baïonnette. C'était téméraire, sans doute, mais à quoi ne s'expose-t-on pas de guetter le cœur pour fraterniser plus vite avec les crocodiles et surtout pour éviter les rayons verticaux d'un soleil de plomb. Hugues, mon domestique, ouvrait la marche en tremblant de tous ses membres, et nous le suivions hardiment sans que notre courage parvint à le rassurer. Il faisait un effort d'héroïsme qu'il comprenait à peine et dont il ne se sera sans doute jamais vanté, car le brave, le pauvre et fidèle garçon était le type le plus pur de l'idiotisme, avec une dose d'orgueil tout à fait bouffonne. Hugues est à peine au milieu de la mare, qu'il pousse un cri lugubre et dit « Crocodile, je suis mort !» et le voilà barbotant dans la fange. « Qu'eussiez-vous fait à notre place? Dites-le-moi. Mais point de ventrille. Vous auriez fait ce que nous fîmes tous. » Surpris par ce cri d'effroi, nous laissâmes l'infortuné Hugues se tirer d'affaire comme il pourrait. Et jouant des mains et des pieds avec une vitesse inaccoutumée, nous regagnâmes notre première station. Toutefois, étonné de se sentir si longtemps intact, mon domestique se redressa, plongea le bras dans l'eau et arracha du sol une racine parasite qui lui avait mordu le talon et le tenait encore emprisonné. Pâle mais heureux, il arriva près de nous et sans égard pour son maître, je crois qu'il l'appela poltron. Cependant assez à voix basse pour n'être pas entendu. C'est la première et la seule fois de sa vie qu'il avait montré quelque logique. Quand tout le monde a été lâche, tout le monde a été brave. L'armée de héros reprit son train de conquête et attaqua inutilement un autre crocodile beaucoup plus petit que le premier. Mais cette fois du moins, elle eut pour excuse l'énorme distance qui nous séparait. Le lendemain de notre course à Bonny, course si flatteuse pour notre vanité, j'eus un tout autre courage, celui d'avouer à M. Tillman notre frayeur et notre maladresse. « Vous avez tort, » répondit-il, « vous avez été brave en essayant le passage de cette lagune où souvent les crocodiles vont se divertir, et quant à votre maladresse, il n'est pas probable que toutes vos balles aient frappé à côté du monstre, quelques-unes ont atteint les écailles et glissé dessus comme sur une table de fer. Si les malais n'avaient que des fusils à opposer aux crocodiles, ils les regarderaient encore comme les dieux tout-puissants de ces contrées ou comme les gardiens fidèles des âmes de leur premier Raja. Mais la superstition qui leur faisait respecter ces hôtes dangereux n'a plus de force que sur certaines parties de la côte habitées par des hommes féroces fuyant toute civilisation. À Kupang, lorsqu'un crocodile remonte la rivière et vient chercher pâture jusque dans les habitations, il y a lutte ardente entre lui et les malais, et rarement le redoutable amphibie regagne son domaine de prédilection. Souvent même, lorsqu'un navire mouille dans notre rade et veut emporter la carcasse d'un de ces monstrueux animaux, j'ordonne une expédition à Bonny et l'on ne revient jamais à Coupang sans le cadavre d'un ennemi. Si je l'osais, dis-je à M. Tillman, je vous demanderais quelques renseignements sur cette façon de combattre les crocodiles. Ce doit être un spectacle bien curieux et bien terrible à la fois. Oh, qu'à cela ne tienne, me répondit-il, nous allons prendre le thé. Je vous communiquerai les détails que vous me demandez en présence de ma femme, qui me les fait raconter deux fois par semaine afin de se donner assez de courage pour être témoin, avant son départ de la colonie, d'un de ces combats où la vie de tant d'hommes est en jeu. Vous avez dû remarquer, poursuivit M. Tillman, que dès qu'une idée superstitieuse a frappé un peuple, il en reste toujours quelques levains, alors même que la raison en a montré tout le ridicule. Les Malais ont longtemps adoré les crocodiles, et de nos jours encore, un sentiment de frayeur religieuse se glisse dans leurs âmes, même au moment où ils préparent une expédition contre ces redoutables amphibies. Ce n'est que lorsqu'ils se trouvent en présence de leur ennemi, ou que leur intérêt personnel les y oblige, qu'ils le combattent et redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire forts, audacieux, pleins d'adresse, indomptables. Ils choisissent pour la lutte un endroit sec, égal, ouvert, où cependant par intervalles, ils échelonnent quelques troncs d'arbres. Puis ils se tiennent à l'écart, loin du rivage, cachés et silencieux. Sitôt que l'amphibie sort de la mer, les Malais s'éloignent doucement à quatre pattes pour se rapprocher et l'attaquer plus tard en flanc à l'aide de leurs criques et de leurs flèches empoisonnées. Un seul d'entre eux demeure isolé au centre du champ de bataille, pousse alors de sa voix qu'il cherche à rendre flûter un gémissement douloureux pareil à celui d'un enfant qui pleure. Le crocodile écoute d'abord attentif et ne tarde pas à se diriger vers une proie qu'il croit facile. Le Malais, presque caché par le tronc d'arbre qu'il a choisi, se traîne sur le ventre jusqu'à une seconde station, tandis que ses compagnons se rapprochent et rétrécissent le cercle. Le cri plaintif recommence et le crocodile s'éloigne de plus en plus du rivage. Arrivé au dernier tronc d'arbre, le Malais agite sous ses pieds un tas de feuilles sèches, dont le frôlement empêche le crocodile d'entendre le bruit des pas de ceux qui le pressent déjà par derrière, et c'est au moment où la bête féroce se prépare à s'élancer sur sa victime qu'un de ses ennemis se précipite sur son corps presque à califourchon. Le monstre ouvre la gueule, une énorme barre de fer y pénètre comme un frein, et tandis que cavalier et monture luttent avec ardeur, les autres Malais accourent, frappent l'amphibie de leurs armes empoisonnées et ne lui laissent guère le temps d'atteindre le rivage. J'écoutais sans trop de confiance le récit de M. Tillman, mais enfin, avez-vous assisté à une de ces luttes ? Lui dis-je avec un air de doute que je ne pus déguiser. J'y ai assisté trois fois. Et vous avez vu, bien vu, ce que vous me racontez. Si vous êtes encore ici quand nos meilleurs soldats reviendront de l'intérieur de l'île, vous pourrez vous procurer un plaisir pareil à celui que vous semblez si fort désirer. Plaise au ciel que ce soit bientôt. La guerre intérieure se prolongea, et je n'offre pour garantie au récit de M. Tillman que la bonhomie et la sincérité des autres renseignements que nous devons à sa complaisance. Au surplus, l'aspect d'un Malais vous frappe, vous impose, et sa physionomie sombre et féroce vous dit, avant que vous sachiez ses mœurs, tout ce qu'il y a de cruauté dans son âme vide de toute passion généreuse. Le Malais de Timor est jaune, petit, musculeux, fort. Sa chevelure est magnifique. Il la jette sur ses larges épaules de la façon la plus pittoresque. Ses yeux, un peu fendus à la chinoise, ont une expression satanique alors même que rien ne les occupe. Son front est large, ses sourcils très fournis, son nez légèrement épaté. Quelques-uns l'ont aquilin et même à la Bourbon. Il a la bouche grande, les lèvres peu fortes, mais la hideuse habitude qu'il a contractée de fourrer entre la lèvre supérieure et la gencive une volumineuse pincée de tabac assaisonnée de bétel et de noix d'arec saupoudrée de chaux vive le défigure de la manière la plus dégoûtante. En effet, cette chique lui brûle la bouche, le force à saliver constamment, et cette salive n'est autre chose qu'une mousse onctueuse rouge comme du sang. Cela fait mal à voir, cela vous donne des nausées. Son costume est admirable. Il se coiffe parfois à l'aide d'un chapeau tantôt long ou pointu, tantôt carré ou triangulaire, mais toujours d'une forme bizarre, artistement tressée avec la feuille souple du bakwa ou de quelque autre palmiste. Ce sont des colliers de feuilles, de fruits ou de pierres au cou, des bracelets aux poignets. Un manteau jeté sur ses épaules est toujours drapé comme si un peintre de goût en eût étudié les plis. Une autre pièce d'étoffe, fabriquée comme la première dans le pays, est nouée au flanc et descend négligemment sur la cuisse et au-dessous du genou. Ajoutez à cela un air martial, des poses toujours graves et menaçantes, un énorme fusil sur l'épaule, le cric bizarre et redoutable ou flottant corps à la poignée triangulaire des touffes de crin ou de cheveux des victimes égorgées, et vous accepterez tout ce qu'on vous dira d'étrange de ces hommes de fer, moitié civilisés, moitié sauvages, dont la première passion est la vengeance. La ville est divisée en deux parties à peu près égales par une espèce de rue assez large bordée de bakois et de tamariniers. Ici sont les malais dans des cases recouvertes de feuilles de cocotier et dont les murs très serrés sont façonnés à l'aide d'arêtes de palmistes étroitement liées entre elles. Il n'y a dans ces maisons presque aucun meuble. Les malais ne couchent que sur des nattes. Le quartier des Chinois est le plus opulent. Un de nos riches magasins de chrysocale de second ordre a plus de prix que toutes les prétendues richesses entassées sur les comptoirs. Vous ne pouvez vous faire idée de la fourberie de ces misérables brocanteurs patentés, assez adroits pour s'établir en maître partout où ils trouvent des niais à dévaliser. Lâches et fripons, ils reçoivent les corrections qu'on leur inflige avec une sorte de soumission qui fait l'éloge de leur mansuétude. Mais ne vous laissez pas prendre à leur feinte humilité, car le pardon qu'ils implorent maintenant à deux genoux est une heureuse nouvelle à l'aide de laquelle ils surprendront tout à l'heure votre bonne foi. Leur adresse à voler est inconcevable. Nos escrocs de premier mérite ne sont que des écoliers auprès d'eux. 5 ou 6 Chinois vous entourent, vous montrent quelques-unes de ces bagatelles qu'ils façonnent avec tant de patience et de délicatesse. Vous leur présentez à votre tour les objets que vous voulez troquer. Et tandis que celui à qui vous parlez les examine avec attention, un autre vient vous frapper sur l'épaule et vous proposer un nouveau marché. Si vous tournez la tête un seul instant de son côté, votre marchandise est perdue. Bagues, épingles, boutons ou dés à peine tombés qu'il est saisi par les doigts du pied de votre voisin. Il passe sans que vous vous en aperceviez à un pied plus éloigné et va enfin, loin de vous, se cacher sous une pierre ou sous une touffe épaisse de gazon. Après cela, frappez fort sur une joue ou sur une épaule, qu'importe aux Chinois. Ils ne gardent aucune rancune de semblable privauté. Quant à moi, qu'ils ont si lâchement et si souvent trompé, sans doute parce que je leur témoignais une confiance sans borne, je vous assure que je ne suis pas en reste avec eux et que je leur ai bien des fois appris ce que pesait une main européenne, poussée par un besoin de correction. Comme dans tous les pays où se sont établis ces riches mendiants, les Chinois de Coupang ont imposé des lois à leurs maîtres et ils se sont donné un chef de leur nation pour les faire respecter. Le commerce de Timor consiste en bois de sandal et en cire. 2 petits navires de 300 tonneaux suffisent pour l'exportation de ces deux denrées, et l'on assure que depuis quelque temps, les armateurs préfèrent aller jusqu'aux îles Sandwich, où le bois est d'une qualité supérieure et se vend beaucoup moins cher. Les animaux sauvages de l'île sont les cerfs, les buffles, les sangliers et les singes. Les animaux domestiques sont les chevaux, les chèvres, les chiens, les porcs et surtout les coqs et les poules. Pour quelques épingles, on peut acheter une belle volaille. Un buffle coûte 4 piastres. Pour un mauvais couteau, on se procure un petit cochon. En général, il est rare qu'un échange ne soit pas accepté lorsqu'on offre un objet de curiosité venu d'Europe. Dans toutes les campagnes, vous pourrez vous procurer des cocos, des mangues, des pamplemousses et une infinité d'autres fruits délicieux si vous présentez quelques petits clous, des boutons ou une aiguille. Ces bagatelles sont la monnaie des voyageurs. Il y a 300 Chinois à Timor. Parmi eux, on compte un honnête homme et en Corrèze, dit-on, une exagération de voyageurs. Ils ont conservé ici leur costume national. Ils vivent avec autant de frugalité qu'à Macao ou à Canton, c'est-à-dire qu'une tasse de thé, une poignée de riz et quelques petites pipes d'un tabac fort doux suffisent pour leur consommation quotidienne. À l'aide de 2 baguettes d'ivoire qu'ils agitent avec une extrême vélocité, ils saisissent dans leur assiette les miettes les plus menues. On dirait des jongleurs à côté de leur table d'escamotage. Nul peuple sur la terre n'a un caractère de physionomie plus particulier, plus uniforme. Rien ne ressemble plus à un Chinois de Canton qu'un Chinois de Pékin. Rien ne ressemble plus à un Chinois de Coupang qu'un Chinois de Paravent. Si vous avez vu un véritable paravent de Nankin, vous connaissez la Chine, à peu de choses près. Ils ont la figure douce, ronde, les yeux petits, baissés vers le point lacrymal, le nez pâté, les lèvres grosses, la bouche très peu allongée. Ils se rasent la tête et ne gardent qu'une mèche qui, du sinciput, descend en queue sur le dos. Leurs ongles ont quelquefois 1 pouce de longueur, et c'est chez eux de la coquetterie et du luxe que de les conserver propres et bien taillés. Ils sont fort délicats, ne marchent presque jamais. Un Européen, d'une force moyenne, ne devrait pas craindre de se mesurer avec 5 ou 6 de leurs plus vigoureux athlètes. Leur physionomie est au niveau de leur caractère, leur dégradation est complète. Ils font 2 repas par jour, jamais avec leurs femmes. Lâches par naturel et par calcul, ils se sont déclarés neutres dans toutes les guerres que les Malais pourraient entreprendre.